Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 5 octobre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Championnat du monde de lutte libre, le guide suprême de la révolution islamique remercie les athlètes iraniens, source de fierté. Le président iranien Ebrahim Raisi félicite de son homologue de chinois et appelle au développement des relations bilatérales. Et la Syrie réitère son rejet de sa condamnation de l'usage d'armes chimiques sous n'importe quelle circonstance. Le Premier ministre algérien a réagi aux déclarations du président français Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie et son système politique, les qualifiant d'inacceptable. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a remercié dans un message les médaillés iraniens pour leur performance exceptionnelle au championnat du monde de lutte libre 2021, actuellement en cours à Oslo, capitale norvégienne. La victoire de nos héros de lutte qui sont source de fierté a ravi le monde, en particulier la jeunesse du pays. Je les remercie sincèrement, a déclaré l'honorable Ayatollah Khamenei dans un message émis le lundi 4 octobre. Plus tôt, le président iranien Ebrahim Raisi avait félicité dans un message Hassan Yazdani et Amir Hossein Dezare pour avoir remporté la médaille d'or au championnat du monde de lutte libre. Le président iranien apprécie également les précieux efforts des entraîneurs et a prié que le Tout-Puissant donne suite à sa victoire avec d'autres athlètes qui doivent lutter dans les jours à venir. Dans un message félicitant la fête nationale et le 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le président iranien Ebrahim Raisi a exprimé l'espoir que dans le nouveau chapitre des relations Téhéran-Pékin, la coopération dans divers domaines économiques, politiques et culturels sera renforcée et étendue. Dans son message, le président iranien a souligné « Je félicite cordialement son Excellence la grande nation de la Chine à l'occasion de la fête nationale et du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Les glorieuses réalisations de la Chine au cours des dernières décennies sont dues à l'unité et à la solidarité de sa grande nation et de dirigeants sages tels que son Excellence pour la croissance et le développement nationaux. L'engagement soutenu de la Chine envers la priorité du développement dans l'agenda politique mondial reflète la vision de la Chine d'un ordre international juste et populaire en faveur de tous les pays, en particulier les pays en voie de développement, a souligné dans son message à son homologue des Chinois, Xi Jinping, le président iranien Ebrahim Raisi. Téhéran entretient de bonnes relations avec Bakou et Erevan. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, déclarant que l'Iran entretenait de bonnes relations avec Bakou et Erevan, a ajouté que la visite à Téhéran du ministre arménien des Affaires étrangères avait été organisée à l'avance et que cette visite avait été effectuée dans le but d'élargir les relations entre les deux pays. S'exprimant à l'occasion de sa conférence de presse hebdomadaire, en réponse à une question sur la visite à Téhéran des chefs de la diplomatie arménienne, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné la visite de la chef de la diplomatie arménienne avait été préméditée, s'effectue dans le cadre des questions d'intérêt commun et de la coopération bilatérale sur divers plans, dont politique, économique et culturel, a-t-il souligné encore. L'ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bassam Sabar, a affirmé que la Syrie réitère son rejet et sa condamnation de l'usage d'armes chimiques sous n'importe quelle circonstance, par n'importe qui et n'importe où. Lors d'une séance tenue par le Conseil de sécurité, il a indiqué que certains pays poursuivent la politisation du dossier chimique en Syrie. L'ignorance de sa coopération avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et le lancement des accusations infondées. Sabar a fait noter que la Syrie regrette le déséquilibre et la partialité dans les briefings faits par le haut représentant aux affaires de désarmement et qui ignore l'inquiétude de la Syrie et les informations qu'elle donne. Il a souligné que la mission d'établissement des faits continue à ignorer les désinformations données sur la possession par les groupes terroristes d'armes chimiques et sur leurs préparatifs de les utiliser afin d'accuser l'armée syrienne. Le premier ministre algérien Ayman Ben Abderrahman a réagi aux déclarations du président français Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie et son système politique, les qualifiant d'inacceptables. Ce sont des déclarations inacceptables, a affirmé Ayman Ben Abderrahman devant des journalistes alors qu'il était en déplacement dans la wilaya d'Oran. Il a rappelé dans ce sens l'histoire du pays. Nous n'acceptons jamais ce genre de déclaration car l'Algérie est un peuple et une nation debout ayant marqué l'histoire, a-t-il souligné encore. La Tunisie vit des moments historiques. Chaque responsable doit être à la hauteur des aspirations et des attentes du peuple souverain qui a librement exprimé sa volonté, a souligné le président de Tunisien Kaïs Saïed lors d'un entretien au palais de Carthage avec la chef du gouvernement désigné Najla Boudin. Le président tunisien a indiqué que la formation du gouvernement se fera selon de nouvelles perceptions qui rompent avec le calcul politique restreint et l'opportunisme, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel de la présidence tunisienne. Le Soudan et le Soudan du Sud rouvrent leurs frontières après avoir été fermées pendant plus de 10 ans. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud a été réouverte après un accord signé en août dernier entre les deux gouvernements. Au fil des années, les relations entre les deux pays se sont améliorées. La frontière est devenue plus poreuse, permettant aux populations locales de faire des va-et-vient pour effectuer des achats ou permettre le pâturage du bétail. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La patience de l'Iran envers les agissements terroristes dans la région a ses limites, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, déclarant que l'Iran entretenait de bonnes relations avec Bakou et Erevan, a ajouté que la visite du ministre arménien des Affaires étrangères à Téhéran avait été organisée à l'avance et que cette visite avait été effectuée dans le but d'élargir les relations entre les deux pays. S'exprimant à l'occasion de sa conférence de presse hebdomadaire et en réponse à une question sur les enjeux de la visite du ministre arménien des Affaires étrangères, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré la visite du chef de la diplomatie arménienne avait été préméditée et s'effectue dans le cadre des questions d'intérêt commun et de la coopération bilatérale sur divers plans, dont politique, économique et culturelle. Téhéran a de bonnes relations avec Bakou et Erevan, et ses relations avec n'importe quel pays ne signifient pas de contraindre notre pays. La politique étrangère de l'Iran est basé sur une vision inclusive, a-t-il insisté. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, réagissant à l'attaque terroriste qui a visé la capitale afghane, Kaboul, a déclaré « L'Iran condamne le terrorisme sous toutes ses formes et couleurs. L'Iran a pris une position ferme sur les opérations terroristes et les condamne sans exception. L'Afghanistan est fatigué du terrorisme, de la violence et de l'extrémisme et nous devons tous contribuer à tourner la page vers un Afghanistan sûr. » Stable, a-t-il dit. Ces derniers mois, l'Iran a toujours poursuivi la politique et sa politique de principe. Nous avons eu et nous avons toujours différents niveaux de relations et de coopération avec Bakou et laissons les pourparlers se poursuivre par les mêmes canaux. Nos relations bilatérales n'ont pas besoin des allégations remédiatisées, déplorables, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Concernant les opérations militaire de l'Iran contre les groupuscules terroristes activés dans la région du Kurdistan irakien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné face à certains agissements terroristes menés par des groupuscules armés basés dans la région du Kurdistan irakien. Nous avons fait preuve d'une passion stratégique avec tact afin de résoudre ce problème à notre manière. Le message de l'Iran au Kurdistan irakien et à Bagdad et que la patience de l'Iran a ses limites et que cela ne peut plus que continuer ainsi. Il est intolérable de voir l'implantation de bases militaires par des groupes terroristes anti-iraniens sur la frontière de la région autonome du Kurdistan et de l'Irak, des bases où des cellules terroristes s'exercent et reçoivent une formation militaire pour attaquer l'Iran. Ceci est contraire au droit international et à la constitution irakienne qui stipule que les frontières de l'Irak ne peuvent pas être la frontière d'actes terroristes.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, cette nouvelle décision de la France concernant la réduction des délivrances de visas de moitié pour les Algériens a provoqué une crise diplomatique qui va certainement déboucher sur une crise économique. En effet, la preuve, l'Algérie a déjà pensé à une série de sanctions exercées à l'encontre de la France. En effet, la France n'est plus du tout dans une position de force. Il suffit que l'Algérie ferme son marché sur le gaz et le pétrole. Voilà. Car justement, la France peine beaucoup de gagner de nouveaux clients, surtout dans le secteur agricole, avec une forte présence de l'Espagne à côté. Voilà. Bien sûr, il faut mentionner également de grands contrats militaires qui ont été volés par les États-Unis sous le nez de la France. Voilà. Alors, nous allons voir ça avec des experts des questions internationales, des experts qui vont faire vivre cette émission, Le Débat, tout à l'heure, juste après ce reportage. Voyez, restez avec nous, je vous prie.
L'Algérie prépare une série de sanctions à l'encontre de la France suite à la décision de cette dernière de réduire le nombre de visas de moitié aux ressortissants algériens et à la dernière déclaration d'Emmanuel Macron qui vise à créer une division au sommet de l'État. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, la France est loin d'être en position de force. En cas de bras de fer avec son ancienne colonie, expliquent des sources proches du dossier. Les relations économiques et commerciales ont de tout temps été favorables au partenaire français qui a toujours tourné à son profit ce qu'on appelle faussement une coopération gagnant-gagnant, ajoutent les sources. Mais ce que la France croit être un avantage s'avère un point faible en réalité, car il suffit que l'Algérie ferme son marché pour que la 9e puissance mondiale perde au change, d'autant plus que la situation économique mondiale n'arrange pas les affaires de ce pays qui vit de son tourisme, de son agriculture et de ses industries. Or, il aura suffi d'une pandémie pour que se soit mise à nu la fragilité du système économique français, soulignent les sources, qui rappellent que le gouvernement français a dû emprunter auprès de la Banque européenne d'investissement pour pouvoir faire face aux effets de la crise sanitaire mondiale, augmentant ainsi sa dette déjà abyssale. Contrairement à l'Algérie, qui peut diversifier ses fournisseurs à l'aise et qui peut trouver d'autres débouchés à son gaz et à son pétrole, la France peine à gagner des clients, que ce soit pour ses produits agricoles, face à la rude concurrence espagnole, ou pour ses armes coûteuses et moins efficaces que leur équivalente russe, par exemple, et qui n'équipent, in fine, que l'armée française, forcée par nationalisme économique, de se doter d'armements fabriqués en France en dépit de leur efficacité toute relative, précisent encore les sources. Pour Algérie patriotique, provoquer l'Algérie ainsi, au point de pousser cette dernière à rappeler son ambassadeur à Paris, équivaut à scier la branche sur laquelle on est assis, tant la première puissance d'Afrique du Nord est l'appui sans lequel toute lutte contre le terrorisme transfrontalier et le crime organisé est sans résultat.
Alors voilà pour le reportage. Alors nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau M. André Chamy, juriste international depuis l'Alsace. M. Chamy, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir, André Chamy. Un grand bonjour à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Nous allons commencer avec Maître Chamy depuis l'Alsace. Alors, Maître Chamy, comment se fait-il qu'une France qui est donc en faillite décide de réduire des visas de moitié pour les Algériens, alors que d'un autre côté, la France encourage des centaines de milliers d'Afghans d'entrer sur le territoire français?
Si l'on doit parler de la politique d'immigration pratiquée par la France, elle pose des difficultés depuis de longues années. D'ailleurs, si l'extrême droite en France se nourrit par rapport à cette politique d'immigration, c'est aussi en raison de l'absurdité parfois de certaines questions, notamment par exemple aux chercheurs, notamment aux étudiants étrangers qui jusqu'à maintenant représentaient un flux important mais qui constituaient aussi une part importante des chercheurs en France et des, de classes scientifiques non négligeables qui a été élevé en guillemets à l'éducation française et en même temps qui s'est nourri du système universitaire français. Pareil par rapport à ce qu'on appelle en France les regroupements familiaux. Les regroupements familiaux posent problème par rapport à certains parce qu'ils ne veulent plus voir de personnes étrangères. Mais par contre, quand une personne se marie avec une personne qui appartient à une autre nationalité, le regroupement familial s'impose et il est prévu tant par la loi que par les traités signés par la France. C'est-à-dire que si l'on devait se positionner sur ces questions-là, la politique française sur cet aspect-là est faite en dépit du bon sens parce que la France doit respecter ses engagements, doit respecter ses obligations et surtout doit se nourrir de cette manne scientifique, si j'ose dire, étrangère, qui est considérée comme importante et non négligeable et à bas coût. C'est ça qui est aussi décrié par les universitaires en France parce qu'ils estiment qu'ils ont besoin de cette contribution.
Bien,
en parallèle, quand on fait de cette question d'immigration une question politique, là, ça devient plus compliqué parce que le président Macron se trouve entre le marteau et l'enclume. Parce que quand il était en campagne, il a été interviewé par des journalistes algériens où il a rappelé qu'effectivement que la colonisation française en Algérie doit être considérée comme un crime contre l'humanité. À l'époque, il a été critiqué par la quasi-totalité de la classe politique en France parce qu'il ne fallait pas utiliser les termes crime contre l'humanité, même s'il s'agit de 5 millions de morts, même s'il s'agit même d'actes d'assassinat d'Algériens qui étaient sur le territoire français à l'époque et qui ont manifesté pour la libération de leur pays. C'était par des dizaines qui ont été même jetés à l'eau à l'époque par un préfet de l'époque, ou enfin sur l'ordre d'un préfet de l'époque qui s'appelait Popon, et lui-même il a été poursuivi pour crime contre l'humanité. C'est-à-dire nous sommes dans la contradiction exceptionnelle. Mais là aujourd'hui, Macron refait l'histoire et essaie de classer l'Algérie comme il l'entend, et il s'interroge même sur l'existence d'une nation algérienne. Qu'est-ce que c'est une nation algérienne selon lui, je l'ignore, parce qu'il il se pose des questions, mais il n'y répond pas par une analyse politique. Parce que bon, là, si on doit se positionner sur le terme nation, il n'y aurait plus beaucoup de nations dans le monde, parce que des nations ont parfois émergé non seulement de l'histoire, mais également de la libération de l'occupant, qui était à l'époque les forces coloniales, avec toutes les conséquences que ça a donné. Et ça a aussi, on peut parler de nations, suite à des mouvements de libération à l'intérieur de certains pays, parce que certaines populations estimaient dominées par d'autres, et à ce moment-là, il y a eu des guerres, des sécessions, qui ont créé maintenant, par exemple, le Soudan, on a deux, trois Soudans, l'Afrique, il y a eu un certain nombre de pays qui sont scindés, au Moyen-Orient, pareil, à un moment donné, il y a eu des Yémen, maintenant on est toujours avec un nouveau Yémen, mais partagé en deux. Il y a toujours ces mouvements qui ont créé des nations, mais ça ne veut pas dire que ces nations n'existent pas. D'ailleurs, qui sommes-nous pour juger si cette nation mérite d'exister ou pas? Maintenant, cette nation existe depuis, je dirais, plus de 100 ans, même parfois plus de 200 ans. Et c'est cette nation-là qui a conduit la guerre de libération, sauf si on reproche aux Algériens, en quelque sorte, la guerre de libération qui a été menée par cette population et qui a conduit à la création de ce pays-là. Et au bout de 200 ou 300 ans de lutte, parce que la libération ne s'est pas créée uniquement dans les années 60. C'est une lutte armée qui a commencé plusieurs décennies avant l'obtention de la libération par le peuple algérien. L'analyse faite par Macron, elle est un peu erronée, mais en réalité, il y a un aspect que lui, il a voulu à un moment donné pointer du doigt en disant « Je crée une commission pour parler de l'Algérie et pour essayer d'enterrer la hache de guerre entre les deux pays. » Puis il y a une commission qui a été présidée par M. Stora, historien français, d'origine algérienne d'ailleurs. Et cette commission aurait reçu des critiques en France, mais en même temps aurait été acceptée par l'essentiel des historiens en France. Sauf que l'Algérie n'a pas été, ne s'est pas considérée comme concernée par cette analyse.
D'accord, excusez-moi.
Parce que selon eux, elle n'a pas contribué à ce travail-là et par conséquent, la France veut avoir, entre guillemets, refaire l'histoire à sa manière, les Algériens ne sont pas concernés. Il aurait fallu, à ce moment-là, intéresser les Algériens, faire un travail entre deux gouvernements, avec les historiens choisis, pour aboutir à cette commission, à des conclusions communes. Mais on ne D'accord. peut pas dire que les conclusions françaises devaient s'imposer à l'Algérie.
André Chamy, excusez-moi de vous interrompre. Merci pour ce rappel d'histoire. J'aimerais beaucoup à présent connaître l'avis de M. Pierre Dortiguier, politologue, qui est avec nous depuis Toulouse. Alors, M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Chamy.
Maître, merci d'être avec nous, Pierre Dortiguier. Alors, bien sûr, nous parlons de cette réduction, cette décision de la réduction des délivrances de visas de moitié pour les Algériens. Maître Chamy nous a très bien expliqué la colère des Algériens qui est très juste, justement. Alors, pourquoi la France a décidé de prendre une telle décision pour mettre en colère les Algériens et donc compromettre les relations diplomatiques et pourquoi pas économiques?
En effet, c'est une décision qui est absurde et qui est une cause d'irritation que d'ailleurs M. Macron, notre président, donc, a voulu corriger en disant que cela ne s'appliquait qu'aux dirigeants. Évidemment, ce qui est encore plus insultant, évidemment, pour un pays. Mais je crois que le fond de l'affaire est très simple. Il s'agit là d'une posture électorale actuelle. M. Macron prépare sa réélection et il a affaire, il a comme concurrent, disons, sur sa droite, si je puis dire, mais encore que ce soit indéterminé, des personnalités comme M. Zemmour et autres qui sont des gens d'origine algérienne, mais très opposés, bien sûr, à ce qu'ils appellent l'islamisme, qui à leurs yeux est une notion péjorative, vous savez, alors qu'elle n'était pas autrefois au XVIIIe siècle, dans Voltaire, au contraire, c'est exalté. Après, ceci étant dit, M. Macron, donc, veut se positionner, disons, dans une atmosphère électorale française qui est quand même, il faut le dire, très marquée, on le sent déjà, par de l'immigration, la critique surtout de la religion musulmane. C'est ce candidat qu'on appelle M. Zemmour, qui a déjà crédité de 14% ou 15% des suffrages, en fait son cheval de bataille, vous voyez. Et il dit ouvertement que c'est un ennemi, que nous avons affaire à un ennemi, je parle de la religion musulmane, de la civilisation française, etc., etc. Je crois que dans ce milieu, qui est un milieu matérialiste, vous voyez, où on ne songe qu'à gagner à tout prix, quelles que soient les conséquences nationales ou morales, voyez-vous, le fait de jouer une irritation avec l'Algérie est un gain pour M. Macron, pour ceux qui sont autour de lui. Ce n'est pas une affaire personnelle. Je crois que c'est une affaire... qui montre, je reprendrai un terme de la français, de la politique, de la presse algérienne, le caractère incorrigible, justement, de beaucoup de Français vis-à-vis de l'histoire algérienne. Je me permets de donner un simple fait qui ne paraît pas dans la presse, bien sûr chez nous, plutôt il n'est pas rare, mais j'ai regardé une carte de 1692, donc... De la fin de notre XVIIe siècle, en France, on y voit très bien marqué un royaume d'Algérie, à côté d'un royaume de Tripolitaine, qui est la Libye, et d'un royaume, non pas du Maroc, mais d'abord du Fezzan, et ensuite du Maroc. Bon, c'est une carte faite par un Picard, nommé Samsun, S-A-N-S-U-N, qu'on peut trouver, comme d'autres documents, qui montrent qu'il y avait une réalité algérienne, bien sûr. Elle ne date pas seulement des combats, elle a été également dans l'Empire ottoman. M. Macron prétend que l'Empire ottoman est une colonisation. Bon, écoutez, c'est ridicule. Il n'a qu'à aller voir à Tlemcen. Je connais un peu l'Algérie, j'ai visité une seule fois. Mais enfin, l'Empire ottoman et l'Algérie ont formé, disons, une même unité culturelle. Voilà. Et ceci, bien sûr, est très bien vu aujourd'hui, à savoir de lutter un peu, de taper un peu contre les Turcs, de taper contre l'ancien régime ottoman, oui. De taper et surtout de mobiliser un électorat, qui est un électorat dans l'ancien pied noir, voyez. Et je crois que cette politique à courte vue, voyez-vous, qui est aujourd'hui énoncée. Bien sûr, derrière, il peut y avoir des visées de pression sur l'Algérie, mais là, cette hargne d'une guerre que j'ai connue, puisque j'étais de la classe 61 exactement, je n'ai pas été engagé là-bas, mais tous mes camarades de collège sont partis. Moi, j'avais un sursis. Ils m'ont raconté des choses épouvantables, touchant les tortures, etc. Bon, je ne reviens pas dessus. Il faudrait quand même... même que nous ayons un peu de pudeur, je crois, et que qu'il faut tourner une page, c'est ce qu'avait voulu faire le général de Gaulle, et voir l'avenir. Tandis que là, on est en train de spéculer sur les morts, spéculer sur les massacres, ignorer ce que nous avons fait aux Algériens ici en France, dont j'étais le témoin aussi quand j'étais tout jeune homme. Et donc, je crois qu'il y a un côté un peu, comment vous dire, un point médiocre dans la réaction du président de la République.
Merci. Maître Chami, c'est vrai qu'on observe tout de même une politique de deux poids, deux mesures par le gouvernement français. D'un côté, on vire des Algériens, on réduit les visas pour les Algériens, et de l'autre côté, on encourage d'entrer sur le territoire français des centaines de milliers d'Afghans. Là, on est vraiment face à une politique de deux poids, deux mesures. Pierre d'Ortigui a évoqué la question électorale pour séduire les électeurs. Là, la France a décidé de se comporter ainsi. Que pensez-vous?
À mon avis, c'est encore plus grave que le problème électoral. Il y a certainement un problème électoral et électoraliste, mais il y a un problème beaucoup plus général, à mon sens. Si vous prenez la position de la France depuis des décennies maintenant, depuis le début de la guerre du Liban jusqu'à maintenant, à chaque fois, la France faisait d'une sorte d'immigration sélective afin de modifier la démographie dans certains pays pour ensuite en faire un sujet local. Vous prenez ce qui s'est passé au Liban quand on a encouragé le départ des chrétiens d'Orient alors que ils ne voulaient pas partir et l'ensemble du Liban, la structure démographique du Liban exigeait la présence des chrétiens du Liban, en changeait la démographie au Liban. Quand ils ont fait la même chose avec les Syriens, c'est pour créer une place qui composait des Syriens qui ont quitté leur pays pour les transformer en opposants et ensuite encourager les changements démographiques dans le pays. Parce que il faut penser l'après-guerre, c'est-à-dire la Syrie doit se reconstruire, elle devrait se reconstruire par qui, par quoi. Et pareil pour l'Afghanistan. L'Afghanistan était en guerre et maintenant dans une situation, je dirais, non réenviable, parce que un pays tenu par les talibans, c'est pas franchement un pays qui présente les garanties nécessaires. Et surtout quand on a eu l'expérience avec les talibans et qu'ils ont fait. Évidemment, il y a des changements démographiques et toujours les Américains avaient pratiqué ça d'ailleurs de leur côté, ils continuent de le pratiquer. Ils préparent des opposants pour ensuite s'en servir dans le jeu politique intérieur. Et puis en même temps, ça leur permet d'avoir des chrétiens, c'est-à-dire vous avez toujours ces populations-là qui seraient aux ordres du service de renseignement français. On va dire c'est un moyen économique, politique et démographique pour modifier certains pays, en tout cas les structures de certains pays. Pour l'Algérie, c'est pas possible parce qu'il y a une population algérienne importante en France et elle est déjà l'objet d'un jeu politique intérieur. Le fait de déplacer les Algériens vers la France n'apportera rien. Par contre, le souhait des Français a toujours été, depuis la libération de l'Algérie, c'était au contraire d'essayer de rapatrier les Algériens et à ce moment-là, on a essayé de les priver de leur nationalité ou bien de leur carte de séjour ou même parfois de leur naturalisation parce qu'on leur disait « vous ne prouvez pas que vous avez opté pour la France ». C'était également des enjeux juridiques sur lesquels beaucoup de juristes ont travaillé. Aujourd'hui, évidemment, les Afghans, malheureusement, vont faire le jeu des Français, des Américains, des Anglais pour influer sur le jeu politique en Afghanistan et peut-être préparer ce qu'on appelle la classe qui va par la suite, une fois que l'origine du Taliban aura disparu, il faut bien une classe qui soit pro-occidentale, ce que les Américains avaient commencé à faire, parce qu'on a dit qu'il y avait le centre de Kaboul qui était occidentalisé, c'était d'abord changer la culture du pays, changer le patrimoine du pays, changer la structure intellectuelle du pays, et à ce moment-là vous pouvez le dominer, comme vous ne pouvez pas le dominer par la guerre, vous utilisez ce qu'on appelle le soft war, c'est-à-dire il y a un changement de paradigme de logiciel dans la population conduit par une classe qui est élevée, éduquée et nourrie par les Occidentaux pour justement faire le jeu des Occidentaux et réaliser malheureusement les projets occidentaux dans ce pays-là. Et nous y sommes là. Les Afghans, qu'on a déplacés et qu'on est en train de préparer, là maintenant, ils vont être de plus en plus occidentalisés. Et dans la phase d'après, on va essayer de s'en servir, on va s'en servir, enfin, les Occidentaux vont s'en servir pour ensuite changer le logiciel afghan attendre le bon moment pour casser du taliban et revenir vers ce qu'on appelle une nouvelle guerre d'Afghanistan.
Tout à fait. Pierre Dortiguier, est-ce que vous voulez bien réagir, surtout face à cette question que pourquoi prendre le risque économique, car vraiment l'Algérie est un partenaire important de la France, et maintenant que la France a peine à gagner des clients, surtout avec la concurrence avec l'Espagne et militaire avec les États-Unis, pourquoi prendre de tels risques?
Il y a en effet, disons, une raison à long terme, mais qu'a évoqué Maître Chami, à savoir de vouloir former, de vouloir dans un climat, je veux dire clairement, dans un climat de relative hostilité avec l'Algérie, de former ici en France ce qu'on pourrait appeler une nouvelle matrice de l'Algérie française, à savoir former des Algériens qui seraient formés donc à notre manière et que par la suite nous exporterions en Algérie à l'occasion de troubles. Ça, c'est une chose qui m'a été dite en Afrique du Nord, en particulier qui m'a été expliqué en Tunisie par des hommes politiques qui étaient mes anciens élèves, et je le crois volontiers que c'est, disons, une visée, en effet, des anciens milieux colonialistes. C'est une visée d'un retour, si vous voulez, à travers le façonnement d'une population ici en France. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, nous-mêmes, nous ne jugeons pas très bien nos propres intérêts, si nous allons à l'encontre même de bénéfices que nous avons acquis avec l'Algérie, c'est que justement nous ne sommes pas maîtres, possesseurs et maîtres, disons, de notre propre économie. Je reviens toujours à ceci, c'est-à-dire nous sommes endettés profondément, nous sommes dépendants de milieux financiers internationaux qui sont nos créanciers, nous sommes des débiteurs, et donc nous faisons exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire l'Algérie aux bancs, disons, je ne dis pas aux bancs des nations, mais disons de l'attaquer au détriment du Maroc, à l'avantage du Maroc, par exemple, qui est considéré davantage comme un allié, disons, des puissances occidentales. Tout ceci, on peut nous faire jouer, nous, Français, un rôle là-dedans. Et naturellement, à l'encontre de nos intérêts réels, à l'encontre des bénéfices acquis dans les relations franco-algériennes. Mais justement, c'est que nous ne pouvons plus parler, disons, nous ne maîtrisons plus notre économie et notre finance. Ça, je crois que c'est une question qui est très difficile à mettre à jour. Ça fait très, très mal, disons, à mes compatriotes de l'entendre, de s'en rendre compte, disons. Et certains esprits lucides le disent, certains économistes lucides osent l'affirmer. Je crois que c'est notre faiblesse initiale qui fait que la politique du gouvernement français ne répond pas aux intérêts français. Ce n'est pas que ce soit des traîtres aux intérêts français, mais ils ne peuvent plus, disons, maintenir les bénéfices que nous avions, comme à l'époque de M. Chirac, à l'époque des autres présidents, vous voyez. Et je crois que là, ça montre la faiblesse de la France, pas de l'Algérie. Cette politique anti-algérienne, qui va à l'encontre des intérêts français, montre justement que nous ne sommes plus maîtres d'eux-mêmes à la question de savoir quelles sont les personnes, justement, qui dirigent réellement l'économie et la politique française.
En effet, Pierre Dortiguier, la France n'est plus du tout dans une position de force. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand bonjour, merci à M. Maître Chami depuis l'Alsace pour avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Lors d'une audience accordée aux diplômés de l'Académie militaire iranienne, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a dénoncé les États de la région qui s'appuient sur des pays extra-régionaux dans leur quête de sécurité. Vous, nos jeunes combattants, vous êtes le motif de la fierté de notre nation, car vous êtes un solide rempart, un bouclier qui protège notre pays contre les menaces extérieures et les défis intérieurs. Vous êtes la quintessence même de ce verset coranique auquel se référait le premier imam des chiites, qui voit à travers les forces armées un obstacle à tout danger qui pourrait encourir de près ou de loin un état national. L'armée et le corps des gardiens de la révolution islamique ou encore le corps des forces mobilisées entrés dans cette catégorie, ce sont eux une solide barrière contre les forces ennemies, a-t-il souligné. Plus loin dans ses propos, le guide suprême de la révolution islamique a souligné que la sécurité est le principal capital ou la première infrastructure d'un pays, car elle sous-entend toutes les autres activités d'un État, sa marche en avant. Et c'est cette même question de sécurité qui devrait être la première priorité des forces armées d'un pays. Ces pays qui se font illusion et qui cherchent à s'assurer leur sécurité en s'appuyant sur les autres, et bien qu'elles le sachent, elles en mordront bientôt les doigts. Dans notre région, la présence des forces des armées extra-régionales n'a jamais cessé d'être la source du bellicisme, de tensions et de destruction. Les États de la région devront œuvrer dans le sens d'une totale indépendance de leur armée et une armée indépendante, et cela veut dire une armée qui s'appuie sur le peuple et qui opère en synchronie avec les armées des pays voisins et régionales. Et c'est cela qui pourrait se concrétiser les intérêts de tous les États de la région. Une armée comme celle des États-Unis, équipée d'armes conventionnelles et non conventionnelles, a débarqué dans un pays voisin, l'Afghanistan, pour y renverser le gouvernement des talibans. Elle y est restée pendant 20 ans et n'a manqué de commettre toute forme de crime et d'atrocité. Cette armée a occupé l'Afghanistan, y a cultivé des narcotiques, a détruit des infrastructures et puis, au bout de 20 ans, a remis le pouvoir aux talibans et s'en est retiré. En effet, l'armée dans laquelle se trouvait l'armée américaine lors de son retrait d'Afghanistan en reflète la vraie nature. Ces images hollywoodiennes de l'armée américaine et d'autres des armées qui lui ressemblent ne sont que de purs spectacles. La vérité, c'est ce que nous avons vu à l'aéroport de Kaboul. Plus loin dans ses propos, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné la haine qu'aspire l'armée américaine au peuple des pays de l'Est de l'Asie. Là où les Américains s'ingèrent, ils ne provoquent que la haine et l'aversion. Au fait, la présence des forces étrangères ne fait que sommer la discorde, d'où la nécessité d'avoir des forces armées indépendantes à l'échelle de notre région. Les armées des États qui la peuplent sont parfaitement à même d'en assurer la sécurité collective, et il ne faut à aucun prix que le parti tierce s'en mêle, à marteler le guide suprême de la révolution islamique. Le roi de Jordanie, Abdallah II, s'est entretenu au téléphone avec le président syrien Bachar al-Assad pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, a annoncé le palais royal dans un communiqué cité par l'AFP. Le roi Abdallah II de Jordanie a reçu un appel téléphonique du président syrien Bachar al-Assad afin de discuter des relations entre les deux pays frères et des moyens de renforcer la coopération entre eux, a précisé le communiqué, qui souligne par ailleurs que la Jordanie est l'un des rares pays arabes à avoir conservé des relations diplomatiques avec la Syrie après le déclenchement de la guerre. L'appel du président syrien fait suite à l'annonce par la Jordanie la semaine dernière de la réouverture de son poste frontalier avec le sud de la Syrie, alors que la Jordanie a fermé cette frontière à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Le point de passage de Djaber sera rouvert au commerce ainsi qu'au tourisme entre les nations sœurs, a indiqué l'agence de presse officielle jordanienne Petra. Le chef du conseil exécutif du Hezbollah, Hashem Safiuddin, a déclaré que le Hezbollah n'a pas encore pris la décision de lancer la bataille, de sortir les États-Unis de l'appareil d'État libanais. Et lorsque le jour viendra, les Libanais verront quelque chose de nouveau. S'exprimant lors d'une cérémonie organisée au sud du Liban, où Saïed Safiuddin a assuré, les Américains exercent un grand impact sur le Liban, sur les plans sécuritaires, politiques, financiers, économiques. Ils sont puissants au sein de l'État libanais et ils y ont beaucoup d'agents. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore décidé de mener la bataille de sortir les États-Unis de l'appareil de l'État, mais lorsque le jour propice viendra pour lancer cette bataille, les Libanais verront quelque chose de nouveau. Il a ajouté, nous sommes face à beaucoup de défis, dont les défis régionaux. La résistance fait partie de l'équation régionale. L'on ne peut protéger le Liban si on n'est pas puissant dans l'équation régionale. Toute autre estimation n'est d'aucune valeur, a-t-il précisé encore. Évoquant la crise que traverse le Liban et la position du Hezbollah, il a indiqué, nous avions défini certains objectifs, celui de surtout de démoraliser l'ennemi israélien, d'être présent auprès de nos gens pour qu'ils reprennent leur vie normale de tant que possible. Il nous fallait tenir bon dans cette bataille, a-t-il conclu. La veuve de Jamal Khashoggi a remis en question l'engagement du président américain Joe Biden à réclamer des comptes au Royaume saoudien 3 ans après l'assassinat du journaliste qui avait choqué le monde entier. Pour marquer cet anniversaire, Hatis Chinguiz s'est rendu à Washington pour une manifestation devant l'ambassade saoudienne et une vieille près du Congrès américain où elle a dévoilé un portrait de Khashoggi réalisé à partir de coupures de journaux. Elle s'est dite consternée par le fait que seulement quelques jours avant cette date anniversaire, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman d'Imbès. Selon un rapport de renseignement américain dont Joe Biden a ordonné la publication au printemps, MBS a validé l'assassinat du journaliste saoudien en 2018 à Istanbul. Et MBS m'a enlevé Jamal à moi et au monde entier. Allez-vous le tenir pour responsable ou récompenser ses meurtriers, a lancé la veuve de Jamal Khashoggi lors d'une vieille organisée par des groupes de défense des droits de l'homme. Le président américain Joe Biden avait promis avant son élection de faire payer les dirigeants saoudiens pour leur responsabilité dans la mort de Jamal Khashoggi et de les traiter en paria. Mais le gouvernement américain n'a paradoxalement pas sanctionné le MBS afin d'éviter une crise ouverte avec le régime saoudien qui reste un partenaire clé des États-Unis dans la région. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.